Radio Okapi.
Les titres de l'actualité, un calme précaire s'observe ce samedi sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi au nord Kivu. C'est après les bombardements des rebelles du M23 qui ont coûté la vie à une trentaine de déplacés sous les sites de Lushagala. Les infortunés seront enterrés demain dimanche. Amélioration dans la desserte en électricité à Mbujimayi. Plusieurs résidences de la ville qui étaient alimentées par la SNEL les sont actuellement par l'énergie de la centrale de Tubitubidi. Notre invité, c'est le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboyankashama, attribue les succès des opérations militaires en 3 ans d'état de siège au dialogue avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO. Madame, messieurs, bonjour. D'abord, c'était triste nouvelle. La police nationale congolaise est en deuil. Le commissaire divisionnaire adjoint Pierrot Mwanamputu est décédé cette nuit aux cliniques Saint-Luc de Bruxelles en Belgique de suite d'une maladie. La nouvelle est confirmée par des sources policières. De son vivant, le défunt Mwanamputu était très ouvert et avait bien collaboré avec les médias. Au Nord Kivu, une 60aine de leaders religieux s'engagent à accompagner le gouvernement congolais dans la recherche de la paix au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. Engagement pris vendredi après-midi à l'issue d'un atelier de 4 jours organisé par l'église anglicane diocèse de Goma. Leur plan stratégique repose notamment sur la médiation, la réconciliation et la cohésion sociale. Des précisions avec le président de l'église du Christ Congo, Nord Kivu, révérend Samuel Ndaye Mbako, au micro de Gabriel Ouaménien.
Il est question d'abord que l'on fasse une analyse minutieuse du contexte, de la situation. Il faut d'abord comprendre la situation dans laquelle se passe le conflit avant d'entamer maintenant de rencontres, de mettre ensemble les personnes à conflit. Après avoir compris le contexte, il faut bien identifier maintenant les personnes à conflit. Et au-delà des parties directes qui sont en conflit, il est parfois question aussi des parties indirectes qu'on ne voit pas, mais qui influencent ceux qui sont en conflit. Et puis, maintenant, cerner comment on va les mettre ensemble, quelle méthode on va utiliser pour mener progressivement cette réconciliation des personnes qui sont en conflit, avant d'arriver à élaborer, par exemple, un accord de paix.
Rappelons que cette activité a été appuyée par la MONUSCO à travers son unité de médiation et réconciliation. Nord Kivu, encore un calme précaire s'observe ce samedi sur toutes les lignes de front dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi après les bombardements des rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Bombardements qui ont coûté la vie à une trentaine de déplacés sur les sites de Lushagala dans la commune de Karisimbi à Goma. Les infortunés seront enterrés demain selon des sources officielles. Rappelons que ces déplacés de Lushagala sont venus des villages de Sake, de Kiroche, de Bremana et de Chacha dans les territoires de Masisi. À Bukavu, pendant ce temps, une séance de prière a été organisée par le Bureau des coordinations de la société civile pour honorer la mémoire des victimes du bombardement de Lushagala. À cette occasion, la présidente de cette structure citoyenne a demandé au président Félix Tshisekedi d'œuvrer au plus vite pour la restauration de la paix à l'est du pays. Les propos de Madame Néné Bintou ont été recueillis par Jean Kassami.
La province du Nord Kivu étant voisine de celle du Sud Kivu, nous avons voulu organiser une journée de deuil en ces jours pour honorer la mémoire des victimes. Donc nous avons voulu marquer un signe de solidarité et nous demandons à toutes les provinces de faire de même parce que l'unité nationale est en danger et la solidarité nationale est en train de baisser. Nous voulons à ce qu'il y ait vraiment la mobilisation générale parce que la nation est en danger. Mais aussi nous avons un message au président de la République. Nous l'avons voté pour qu'il nous apporte la paix. Nous lui avons donné le 2e mandat. et il a promis de déplacer son état-major dans la partie est. Nous pensons que c'est le temps de le faire parce que c'est chaque jour qu'on enregistre des morts et nous avons déjà manifesté, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, mais la solution tarde à venir. Mais aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies, à la communauté internationale, de faire réparation pour toutes les victimes de ces massacres qui nous fatiguent tous les jours.
Revenons un instant au Nord Kivu où la société civile du territoire de Beni déplore les dernières attaques des rebelles ougandais de l'ADF ayant coûté la vie à 11 civils dont 4 femmes. Le premier vice-président de cette structure citoyenne met le gouvernement congolais devant ses responsabilités. Richard Kirima s'est confié à André Kitenge.
Nous sommes choqués par des tueries qui ont eu lieu le 8 mai 2024. Il y a eu 9 morts à Mandumbi. Parmi les 9 morts, vous savez qu'il y a 5 hommes et 4 femmes. Et le même jour, à Mandimo, à environ 4 km de Mamove, 2 personnes ont aussi été tuées là-bas. Donc, pour la même journée, il y a 11 civils qui ont été atrocement abattus par les rebelles ADF. Et cela, c'est malheur de plus pour la population du territoire de Beni, pour la zone. Mais au même moment, nous disons que ces récentes tueries constituent une sorte d'interpellation. Parce qu'il s'agit des tueries qui se sont opérées le lendemain de l'arrivée des chefs d'état-major généraux de l'armée ougandaise, de l'armée congolaise en territoire de Beni. Nous estimons que c'est une sorte d'interpellation que le gouvernement, que l'armée trouve à ces attaques un message des rebelles, comme qui dirait qu'ils sont là. Et pour nous, ces attaques n'étaient pas imprévisibles, donc c'était prévisible vu la présence rebelle signalée régulièrement ces deux derniers mois par la population civile.
Notez que les activités socio-économiques sont paralysées ce samedi à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. À l'origine, la demande de la société civile d'observer une journée de deuil en mémoire d'une dizaine de personnes qui ont été tuées mercredi et jeudi par les rebelles ougandais de l'ADF. À Kalemi, les membres du centre de coordination des opérations Ousalama ont échangé vendredi après-midi avec les responsables de la 22e brigade de réaction rapide et FARDC. Au menu, trouver des solutions pour mettre un terme au banditisme dans cette ville de la province du Tanganyika. Le compte-rendu de Paulin Munanga.
Au cours de cette rencontre, le commandant de la 22e brigade de réaction rapide de FRDC annonce que des mesures sont prises pour sécuriser la population. Il demande à cette dernière de collaborer avec les forces de sécurité. Général Dunia Kashindi.
Nous nous sommes réunis en urgence. Il est vrai que ce sont des cas isolés, mais nous nous prenons ça au sérieux parce que ça met en danger la vie de la population. Les mesures très dures ont été retenues, que ce soit pour la sécurisation de la population, mais aussi pour le contrôle des hommes en uniforme. Et nous demanderons, et nous avons toujours confiance à notre population, de leur collaboration.
Pour sa part, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika constate que la criminalité est en hausse par rapport au mois passé. Dieudonné Kasaka.
Où nous avons eu à échanger, à évaluer pendant une période où nous avons observé des différents cas de vol. Et il y a même des cas de criminalité qui a essayé un peu d'augmenter par rapport au temps passé.
Signalons que ces derniers temps, des cas de cambriolage, d'agression et même des vols à main armée sont signalés régulièrement dans différents quartiers de Kalemi. Des coups de feu sont entendus pendant la nuit. Des hommes en uniforme non autrement identifiés sont souvent pointés du doigt. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et puis la police nationale va traquer les auteurs de la nuisance sonore ici à Kinshasa. Le commissaire divisionnaire adjoint promet de lutter contre ce phénomène, y compris les marchés pirates dans la capitale. Blaise Kilimbalimba a adressé une mise en garde lors d'une parade organisée vendredi au stade des martyrs. Il attire l'attention des militaires et des policiers qui se promènent avec des armes alors qu'ils ne sont pas de service. On l'écoute dans cet extrait proposé par Anne-Lé Irungmouchich.
Nous avons insisté sur notre unité et sur le respect de nos missions. Que toute violation des consignes sera réprimée. Tous les policiers militaires qui n'est pas engagé ne doivent pas porter les équipements spécifiques de la police ou de l'armée. Et puis, ils doivent rester à la caserne plutôt lorsqu'ils ne sont pas engagés. Et pour ce qui concerne les armes, c'est uniquement lorsque vous êtes en patrouille ou que vous sécurisez une institution ou un édifice public de l'État ou une banque, la liste est connue. En dehors de cela, les unités sont mobilisées pour traquer tous ceux qui voulaient jeter l'opprobre au service de sécurité. La nuisance sonore est une infraction. Nous allons la réprimer et nous commençons dès maintenant. Il y a des endroits cités, comme à la galerie présidentielle là-bas, comme à côté de la place des évolués, comme à Ouileri, Nyangwe, Kalamu, partout là-bas, ils sont cités. Des bonhommes, les gens qui sont à côté des maisons, ils ne doivent pas hausser leur voix.
L'actualité, c'est aussi l'amélioration de la desserte en courant électrique à Mbujimayi. Plusieurs résidences de la ville qui étaient alimentées par la centrale thermique de la SNEL sont actuellement éclairées par l'énergie de la centrale de Toubi-Toubidi. Plusieurs habitants de la ville s'en réjouissent. Explication d'Esther Dalafina.
Plusieurs maisons résidentielles qui étaient autrefois éclairées par la centrale thermique de la SNEL reçoivent actuellement l'énergie électrique de la centrale hydroélectrique de Toubi-Toubidi. La joie est immense, comme le manifeste ici Annie Kaja, cette femme ménagère.
C'est une première dans l'histoire. On voit quand même du courant en permanence, un courant fort et non-stop. Depuis presque 2 mois, nous avons du courant à tout moment, la nuit tout comme le jour. Ça nous permet d'utiliser les appareils électroménagers qui moisissaient dans nos maisons. C'est depuis 1990 que nous avons l'électricité comme celle-ci en Mbujimayi.
Placide Matamba estime que cette fourniture permanente de l'énergie électrique fait évoluer ses activités.
Mes activités marchent bien. Je vends de l'eau, des jus, des kung fu. On m'achète bien parce qu'il y a maintenant du courant permanent. Avec la chaleur, on m'achète beaucoup.
Cette énergie vient également résoudre les difficultés liées à la fourniture de l'eau potable de la Régie des Eaux en Mbujimayi, confirmation de Didier Mboudilelo, directeur provincial de la Régie des Eaux.
Le courant est là, c'est plutôt les vieux équipements maintenant qui nous trahissent. La SNEL nous donne du bon courant.
Signalons que la SNEL attend raccorder d'autres personnes qui désirent éclairer leurs parcelles résidentielles. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans un autre registre, il y a eu mort d'homme et une trentaine de maisons détruites. Un bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue hier sur l'agglomération de Nkolo, secteur de Boko, dans le territoire de Manzangungu au Congo central. La société civile locale affirme à Radio Okapi que beaucoup de ménages ont passé la nuit à la belle étoile. La structure citoyenne appelle les autorités à assister les sinistrés. À Matadi, la correspondance de Nana Plurich Mambou.
En dehors des maisons détruites, 4 personnes ont aussi été foudroyées. Une a trouvé la mort et les 3 autres sont dans un état critique. Plusieurs bananiers ont également été détruits. Pour Victor Nzuzimbembe, acteur de développement dans l'agglomération d'Nkolo, territoire de Mbanzangungu, c'est le déboisement qui est à la base des catastrophes naturelles à répétition dans cette entité. Il explique.
Il faudra une forte éducation environnementale et protéger le village par des forêts. Or, actuellement, toutes les forêts ont été rasées autour du village pour faire la braise.
Les occupants des maisons détruites par cette pluie ont passé la nuit à la belle étoile et ont perdu leurs biens de valeur. D'où ces plaidoyers de Victor Nzuzimbembe pour une assistance urgente en faveur des sinistrés.
Donc plus de 30 familles aujourd'hui sans abri, des familles victimes qui sont presque abandonnées. Et ce sont des familles qui ont déjà vécu la situation des inondations où pratiquement toutes les cultures ont été emportées. Jusque là d'ailleurs, même pas pour les inondations, aucune autorité est venue. Nous espérons que cette fois-ci, les victimes peuvent être prises en compte.
Cette catastrophe intervient 3 semaines après des graves inondations qui ont secoué l'agglomération d'Nkolo en détruisant plusieurs hectares des différentes cultures. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et puis la situation humanitaire est désastreuse au village de Dimalumbu après les inondations causées par le débordement des eaux de la rivière Kasai. Les installations hygiéniques et les forages d'eau sont actuellement endommagés. Conséquence, la population utilise l'eau impropre. Ce constat est fait par la communauté des amis de la nature et de la culture. Des précisions à ces sujets précisément avec le coordonnateur de cet ASBEL, Damien Bungu, au micro d'Irène Bomaluzolo.
Nous sommes sur place, nous avons parlé avec toutes les couches de la population presque. Nous avons compris que le constat est vraiment catastrophique. Donc, Dima est vraiment dans l'eau. Même les forages, c'est vraiment dans l'eau. Je ne sais même pas quelle est l'eau qu'ils sont en train de boire. Le grand problème, c'est que les gens se baignent même dans cette eau-là. Qui est arrivé au village, désolé qu'il y a des toilettes qui ne sont pas vraiment en profondeur. On a constaté que les toilettes sont vraiment trop sales. Il y a eu l'eau qui jonche partout là. Ce sont des microbes, les enfants sont en train de se baigner dans cette eau-là. Nous craignons d'infection, des maladies. Pour le gouvernement, d'abord, il est obligé de descendre sur le terrain pour essayer d'infusquer, d'aider cette population d'abord en forage, aider la population. Les enfants dorment par-ci, par-là, les hommes et les femmes ensemble, il y a promiscuité. Nous craignons tout ce qu'il y a comme tentative de viol et tout. Il y a des femmes enceintes, la maternité est coulée. Il y a vraiment des difficultés dans tous les domaines. Et par rapport aux acteurs humanitaires, nous demandons vraiment que les rapports qui sera conçu ou élaboré par tous ces partenaires humanitaires soient pris en compte et qu'un nez aussi soit jeté dans la ville de Dima, commune de Bassoko.
Actualité internationale.
Au Bénin, après avoir été empêchés et dispersés à coups de gaz lacrymogène, les quatre principaux syndicats du Bénin ont réussi à faire descendre leurs militants dans les rues de Cotonou pour marcher contre la vie chère. Cette manifestation encadrée ce matin par la police s'est achevée à la place de l'Étoile Rouge à Cotonou, la capitale. Et puis au Cameroun, Maurice Kamto, président du MRC et candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue en 2025 pour les comptes de l'Alliance politique pour les changements, s'est confié à la presse ce samedi matin à Yaoundé. Il a évoqué à l'occasion les craintes de son parti politique autour des opérations en cours d'enrôlement sur les listes électorales. Il a également dénoncé le risque d'un coup d'état militaire en préparation si son parti politique, le MRC, venait à remporter la prochaine présidentielle.
L'invité.
Notre invité, c'est le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboyankachama, attribue les succès des opérations militaires en 3 ans d'état de siège au dialogue avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Monsieur le gouverneur de province de l'Ituri, lieutenant général Johnny Luboyankachama, bonjour.
Bonjour, monsieur Kiza.
Êtes-vous satisfait des résultats de l'état de siège 3 ans après par rapport à sa mission assignée par le chef de l'État?
Je peux dire que nous avons quand même accompli beaucoup et la seule dimension qui nous reste aujourd'hui, je pense que c'est plus la réconciliation des populations. Et je crois que c'est ce que nous devons faire. Et d'ailleurs, comme vous avez vu, c'est ce que le chef, le vice-premier ministre à la Défense est venu faire et c'est ce que le chef va venir sceller dans 1 ou 2 semaines.
Alors, certaines opinions pensent que l'état de siège a échoué du fait que, selon eux, les groupes armés continuent à commettre des exactions contre la population civile.
Mais quand je suis arrivé ici, les gens ne dormaient pas chez eux à la maison, juste à quelques kilomètres d'ici. Quand je suis arrivé, les gens n'allaient pas à Mungwalu, les gens n'allaient pas à Komanda. Il y avait des véhicules calcinés, Nyakunde, il n'y avait personne, Katanga, il n'y avait personne. Fataki et autres là, et Libye, c'était la guerre tous les jours. Tchabiboga, il y avait, vous savez, c'était incendié chaque jour. Et aujourd'hui, tout le monde est rentré. Nous restons avec une petite portion, hein, un petit triangle là, Boulero et un peu Djougou là-bas. C'est là où agissent les manipulateurs. Et malheureusement, ils jouent sur la naïveté de ces populations là-bas pour que cela les amène aux affrontements. Et donc ça, il ne faut pas croire que nous allons terminer avec les armes, non. Il y a une dimension aussi où nous devons terminer avec le pardon, la justice transitionnelle que nous sommes en train de préparer.
Alors quel a été l'apport de votre partenaire, la MONUSCO, pour arriver à pacifier certaines zones dans les territoires du Rumo, une partie d'Ndjougou?
Là, avec la MONUSCO, nous faisons tout. Nous sommes sur la RN4 pour pacifier cette RN4. Nous avons eu autant d'opérations avec la MONUSCO, les contingents népalais, bengladais, ainsi de suite. Donc nous sommes en train de beaucoup faire avec nos partenaires et je tiens vraiment à les remercier pour cela. Nous, ils ont même formé aussi une unité spéciale ici pour aller, qui est allée se battre sur la RN4, vous le savez, à Lolwa là-bas. Aujourd'hui, dans le Djougou là-bas, avec le CCCO que nous avons là-bas, vous savez qu'il n'y a plus d'attaque dans les sites. C'est avec eux, c'est eux qui coordonnent, nous travaillons ensemble. Donc nous sommes en train de beaucoup faire avec nos partenaires et je tiens vraiment à les remercier pour cela.
Alors, nous avons assisté récemment à la signature du protocole d'accord entre le gouvernement et les 6 groupes armés actifs à l'Ituri. Où en sommes-nous à ce stade? Est-ce que la feuille de route est mise en application?
Mais bien sûr, ils sont en train de la mettre en application parce qu'aujourd'hui, c'est que la commission que nous envoyons sur terrain. C'est pourquoi tous les endroits où, après Arou, tous les endroits où nous avons eu des problèmes, aujourd'hui, ça s'est presque calmé. Nous n'avons plus que Rho, donc Lida, donc sur la route Katoto en fait. de Kato Toaboulé. C'est là où nous avons des problèmes. Dans les sites, nous n'avons plus de problèmes. Hein? Et donc, nous sommes en train de suivre. Beaucoup ont compris qu'il faut la paix. Beaucoup aussi ont fait maintenant la confiance au gouvernement parce qu'ils ont vu le travail que nous sommes en train de faire. C'est pas pour rien que le chef de l'État arrive aujourd'hui. Mais ce qui nous manque aussi, c'est quoi? C'est que malheureusement, les gens qui étaient habitués à extorquer, à voler, bon, quand il y a des pans de territoire où nous n'avons pas ni la police ni l'armée, bon, ils peuvent s'adonner au vol, à des larcins, ainsi de suite. Mais nous avons beaucoup évolué. Le chef va arriver ici. Le matériel est en train de venir. Je crois que le personnel d'ici là.
Alors pour terminer, 3 ans après, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour le retour définitif de la paix à Ituri?
Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Non, ce que je veux changer, maintenant je vous dis, c'est la réconciliation et le pardon. C'est changer les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous parlons de la cohésion. Nous parlons de pardon, de la réconciliation. Maintenant, il faut que les Ituriens arrivent à se pardonner. Oui, on s'est fait beaucoup de mal. Oui, c'est vrai, il y a eu des tragédies. Maintenant, nous devons aller au-delà de ces tragédies-là pour nous dire, voilà, c'est vrai. Ici, nous nous sommes mal comportés. En tout cas, nous demandons pardon. Oui, vous vous êtes mal comportés. Nous acceptons votre pardon. Il y a des choses qui ont changé. Tout le monde qui arrive ici, regardez aujourd'hui la ville de Bounia. C'est plein de gens qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sentent, ils voient le développement, ils voient les opportunités que cette promesse est en train d'offrir. Et ceux-là qui disent qu'ils n'ont rien vu, j'ai dit qu'ils fassent attention parce que Dieu va les rendre aveugles pour ne plus jamais voir.
Lieutenant général Johnny Le Poing-Kachama, merci.
Merci aussi à toi, Marcel.
C'était l'invité de Radio Kapi, le gouverneur de l'Ituri, Johnny Le Poing-Kachama, interrogé par Martial Kizabiamungu. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Kapi. Merci d'avoir écouté. À Kinshasa, il est 15h43.